Salut, c'est Alexis. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast de Contournement. D'autant que cette fois, on va faire un focus sur un outil que je trouve hyper prometteur, Adalo. Alors Adalo, c'est un app builder qui vous permet de créer des applis mobiles natives, c'est-à-dire que vous allez pouvoir les déployer sur les stores, et qui offre vraiment pas mal de fonctionnalités, malgré que ça soit un projet qui est encore jeune. Alors pour en parler en profondeur, j'ai invité Lucien Tavano et Louis Devomas, deux no-codeurs expérimentés de la communauté francophone, et qui ont déjà réalisé quelques applications en utilisant Adalo. Je vous laisse avec cette conversation, vous allez découvrir leurs analyses sur cet outil qui s'est vraiment très rapidement imposé comme un incontournable dans la communauté no-code, et qui j'espère vous permettra de réaliser votre prochain side project. Bonne écoute.
Ok, alors c'est parti. Bonjour Lucien, bonjour Louis.
Salut Alex, salut Louis.
Je suis très content de vous avoir sur le podcast de Contournement. C'est la première fois qu'on a l'occasion de discuter ensemble à l'antenne, j'ai envie de dire.
Eh oui, oui.
Et donc, on va discuter d'Adalo. Donc, Adalo, qui est un outil, donc qui est un app builder qui permet de faire des applications mobiles, mais pas que. C'est ce qu'on va, pouvoir revenir un peu là-dessus. Et c'est un outil, je pense qu'on peut dire qu'on aime tous les droits beaucoup, qui est un outil qui est jeune.
Gros coup de cœur, ouais.
Donc voilà, on pense qu'il y a beaucoup de potentiel, et c'est pour ça qu'on a envie d'en parler aujourd'hui un petit peu tous les trois, le faire découvrir aux gens, et voir un petit peu ce qu'on peut faire avec, ce qu'on peut pas faire avec, quelles sont les limites, où est-ce que ça va être vraiment utile. Et donc voilà, évoquer un petit peu tout ça, voir ce que vous avez fait avec. Avant de commencer, je pense que c'est pas mal de se présenter, de vous présenter. Lucien, peut-être en premier, si tu veux nous dire un petit peu quelques mots, hein, d'où tu viens, ton background, est-ce que tu as un profil technique ou pas?
Ouais, bien sûr, avec plaisir. Donc, Lucien, j'habite à Paris et je suis no-codeur à plein temps. Je pense que ça se dit maintenant. Je bosse principalement pour AirDev. Donc, il y a une agence spécialisée Bubble et j'étais développeur pour eux. Maintenant, je suis plutôt programme manager. Et après, je fais du freelance aussi en direct avec des clients ou via des agences, mais où là, je suis vraiment le développeur. Et donc, principalement du Bubble, mais depuis peu aussi du Adalo. Et du coup, on en reparlera. Et puis après, j'ai quelques petits side projects. J'ai un background ingé et école de commerce, mais pas dev. Donc, j'ai vraiment débarqué dans ce monde-là après une première startup tech que j'ai montée où il y a eu l'histoire classique, on monte une équipe, on lève des fonds, ça marche pas trop, frustration, et c'est là que j'ai découvert le no-code, et ça a été une révélation depuis.
Ok, et alors Louis, à toi, à ton tour.
Donc du coup, moi je suis Marseillais, pas d'origine, mais de cœur depuis 2012. Mon background, c'est que historiquement, j'ai fait des études de finance, donc rien à voir, et puis je me suis lancé dans le web, via un de mes amis qui m'a recruté dans sa startup en 2010. Et depuis, j'ai toujours beaucoup bidouillé, beaucoup appris constant apprentissage. Et je suis aussi no-codeur à plein temps, même si je reste dans mon métier traditionnel un petit peu sur la gestion de projet, parce que je suis freelance au sein du collectif Digital Village. Et j'ai des missions de gestion de projet, mais aujourd'hui, j'oriente de plus en plus mon freelancing sur du no-code parce qu'il y a de plus en plus de demandes. Et mes outils de prédilection sont plutôt Adalo, Typeform ou du Webflow et du WordPress un peu. Et voilà, et aujourd'hui, c'est vraiment ma passion. C'est depuis qu'on a découvert le mot no-code, j'en parle encore plus, mais c'est vrai que je fais ça depuis longtemps et j'adore. Quoi. C'est une découverte.
Ok. Tu fais pas du tout de Bubble, du coup, Louis. Ça va être intéressant, ouais, du coup, d'avoir ton avis sur Adalo.
Alors, Bubble, en fait, j'ai tenté une startup pendant un an avant de devenir freelance. Donc, ouais. J'étais responsable produit chez Digitik pendant 7-8 ans. Et après, je me suis lancé dans une aventure entrepreneuriale avec un associé et j'ai tenté un peu Bubble. Et j'ai un peu eu les mêmes écueils que quand j'ai tenté d'apprendre le code et ça doit être mon côté flemmard et j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout parce que Bubble, il y a quand même une grosse courbe d'apprentissage. Et j'ai tenté plusieurs fois, hein, mais je suis jamais allé au bout parce que mon but c'était de faire vraiment du lean, de l'itération, itération, itération, itération. Et j'y arrivais mieux avec des outils un peu plus accessibles, un peu plus, où je pouvais mieux bouger les choses. Et du coup, c'est vrai que le Bubble, je m'y suis pas mis du tout.
Ah, c'est intéressant effectivement parce que je pense que c'est une comparaison qu'on qui va forcément un peu revenir puisque Bubble, c'est un peu le leader dans la catégorie des app builders, on va dire.
Ouais, c'est pas que ça, non, c'est aussi, c'est vraiment le même public, celui qui s'intéresse à Bubble que celui qui s'intéresse à Dallo, ce qui est pas forcément le cas sur d'autres outils no code où ça va être à chaque fois pour des, enfin, on en reparlera pour des use cases précis ou quoi, mais alors que là, c'est vraiment le même typologie d'utilisateur qui peut faire énormément. Ouais, ouais.
Non, carrément, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est des partis pris très différents. Forcément, à Dallo, ça arrive 7 ans après Bubble. Mmh. Mais justement, je pense que ça va être intéressant de comparer un petit peu. Donc, ça, n'hésite pas, Lucien, justement, là-dessus, un peu à faire profiter de ton expérience sur Bubble en rétrospective par rapport à Dallo. Et un truc qui m'intéressait, Louis, est-ce que du coup, il y a, avant à Dallo, tu as utilisé d'autres app builders, enfin, que tu as poussé un petit peu, donc à part Bubble?
Ouais, alors effectivement, App Builder, pas vraiment. Moi, ce que je faisais, c'était plutôt pour faire tous mes MVP, mes fameux Minimum Viable Products, j'utilisais plutôt une combinaison d'outils avec un Zapier au milieu. Donc, j'avais du Card, du WordPress, du Webflow, avec derrière un Typeform qui faisait un Zapier, qui envoyait des mails. Et après, je faisais beaucoup de manuels, c'est-à-dire que je vais recontacter les clients. Voilà, je n'étais pas encore dans une logique d'une app qui faisait toute ma logique, ce qui était Bubble au départ, mais comme j'avais pas encore sur ma startup, j'avais pas encore mon produit fini, je savais pas exactement ce que j'allais vendre. C'est pour ça que je m'étais pas encore lancé dans du Bubble. Et quand je me suis lancé dans du Bubble, justement, ce qui m'a beaucoup dérangé moi à l'époque, c'était le côté graphisme. J'avais envie de faire un truc propre et j'arrivais pas à le faire avec Bubble. Et c'est ça en fait qui m'a vachement bloqué. C'est pas la logique que j'avais plus ou moins assimilé, c'était vraiment le côté graphique. J'arrivais pas à rendre un truc responsive propre, quoi.
Ouais, ouais, ça effectivement, c'est une des difficultés un peu avec Bubble. Mais en tout cas, ça me plaît beaucoup parce que du coup, vous représentez un peu tous les deux les deux approches, j'ai envie de dire, que dont on parle souvent chez Contournement quand on vient au no-code et à comment on crée des produits en no-code. Et un peu l'approche, on va dire, un peu intégrée, c'est-à-dire Bubble qui se suffit à lui-même, qui a tout un écosystème où on peut tout faire en Bubble, ou alors l'approche combinaison d'outils et où on va aussi réussir à tester des hypothèses en mode lean, comme tu disais, vraiment créer son MVP sans construire une plateforme unique, mais juste en combinant des outils. Donc ça, c'est très intéressant. Et justement, bon, on va voir un petit peu comment Adalo peut s'inclure là-dedans. Est-ce que Adalo peut suffire à lui-même? Est-ce que Adalo doit s'inclure justement avec d'autres outils, quoi? Avant qu'on passe un peu justement à ce que vous avez fait avec Adalo, je voulais juste rappeler un petit peu donc quelques choses sur Adalo. Donc ils se sont lancés l'année dernière. Donc, ils ont, il me semble, enfin, ils sont vraiment arrivés à maturité en tout cas l'année dernière. Ils ont fait leur lancement sur Product Hunt le jour de la NoCode Conf, enfin le premier jour. Donc la NoCode Conf à San Francisco, c'était mardi et mercredi, et ils ont lancé le mardi. Et ça a eu tellement de succès d'ailleurs que leur site a planté, et ils étaient à la conf et en même temps ils devaient débugger leur site, donc c'était un peu drôle. Mais le premier jour, du coup, ils étaient un peu stressés. Et nous, on a eu l'opportunité de les rencontrer le deuxième jour. On a échangé un petit peu avec David. Alors malheureusement, aucun d'eux dans l'équipe ne parle français, donc on n'a pas pu les inviter dans le podcast, mais je leur ai posé la question. Moi j'ai vraiment bien aimé, c'est une équipe très jeune qui délivre vraiment des fonctionnalités, ils sont très présents, ils aident leurs utilisateurs. Enfin, c'est quelque chose qu'on voit un petit peu aussi dans d'autres outils no code, je pense à Glide notamment, où je pense que tous les utilisateurs sont hyper proches des fondateurs de l'équipe technique, et ça, j'aime bien cette dynamique. Et alors au niveau de l'outil, donc ils proposent un app builder qui va permettre de faire des applications mobiles, vraiment. Donc d'un point de vue technique, sans trop rentrer dans les détails, ça permet de faire vraiment des applications natives. Ils utilisent donc React Native et qui vont pouvoir être délivrées directement sur les stores. Et donc un des points intéressants, on va rentrer un petit peu dans la technique, mais c'est qu'avec Adalo, on peut aussi faire des web apps. Et ce qui est un peu intéressant, à la fois bizarre, c'est que du coup, ils partent de React Native, donc vraiment de l'application native, et ils le convertissent en React Native Web, qui est un composant qui existe, et ils permettent aussi de faire du web. Et donc, il y a aussi des choses un peu, peut-être Lucien, tu pourras me revenir dessus dans ton expérience, là, avec le look and feel entre le natif et le web, où il y a des choses qui sont assez diverses, quoi. Mais en tout cas, sur le mobile, et moi, je pense qu'il y a un vrai enjeu sur le no-code autour du mobile, mais autour du code, hein, même dans l'absolu, hein. J'ai géré une agence web pendant longtemps, et le mobile, c'est quand même un peu ce que les gens veulent, parce que c'est pas évident, c'est des technos quand même qui sont pas faciles à prendre en main, et le premier outil no code qui va vraiment craquer ça, à mon avis, va apporter beaucoup à je vais dire à l'humanité, peut-être pas à l'humanité.
à la communauté, en tout cas.
Voilà, à la communauté. Et donc, et voilà. Et une des raisons, je pense, pour lesquelles on fait ce podcast, c'est que moi, en tout cas, j'ai l'impression qu'Adalo peut proposer ça, quoi.
Ah, ça peut devenir le bubble du mobile. Enfin, ils sont en train de le devenir.
Ouais, c'est ça, tout à fait.
Ouais, alors moi, justement, le mobile, effectivement, là-dessus, c'était primordial qu'il y ait du mobile dessus. Mais tu vois, moi, je me suis pas mal mis sur Glide aussi. Et ce qui m'a bloqué pour faire des apps, c'est le côté uniquement mobile. Parce que moi, je vais être plus sur de la presta de un peu pro, B2B. Et je vais pas mal faire d'outils internes. Et ça, en fait, moi, si j'ai pas une interface desktop derrière, ça me dérange vraiment. Et la grosse force d'Adalo pour moi, c'était, je fais une app desktop. Bon, pour l'instant, elle n'est pas responsive. Donc ça, ils vont travailler dessus. Mais je fais une app desktop d'un côté. Et de l'autre côté, avec la même base de données, je vais pouvoir faire une app mobile. Et ça, pour moi, c'est la vraie force d'Adalo aussi. C'est que tu vois, Glide, ils proposent vraiment que du mobile et ils donnent pas l'impression de vouloir faire du desktop. Et en plus, effectivement, ils vont pas sur les stores. C'est un défaut. Et Adalo, ils vont proposer vraiment tout le panel. Et ça, c'est super.
Ouais, effectivement, cette fonctionnalité, là, cette première fonctionnalité que tu évoques, là, qui est de partager une base de données entre plusieurs applications, web app ou application native, ça c'est, je trouve que c'est un des trucs vraiment très intéressants que qu'Adalo propose.
Hyper puissant, et du coup on est frustré d'un truc là-dessus, c'est que si on développe notre app mobile, on peut partager certes la base de données, mais on est obligé de reconstruire une web app aujourd'hui. On ne peut pas, alors que pourtant les technos ont l'air vraiment les mêmes, on ne peut pas réutiliser l'app mobile pour la web app. Ouais. C'est un petit peu dommage, ils ont fait ça tellement facile de partager la base de données. Et après, ouais, ils font un effort assez quand même conséquent de pouvoir faire une web app.
Ouais, j'ai l'impression qu'un peu leur use case, c'est un peu celui que tu décrivais, Louis, c'est-à-dire des apps, une appli mobile qui est complètement distincte de la web app.
Oui.
Dans le sens où ça serait une web app desktop, enfin moi comme je l'imagine, de back-office, d'administration, de maintenance, et puis une appli mobile plutôt cliente, utilisateur, quoi. Ou alors, si tu imagines, je sais pas, de refaire Uber, tu pourrais avoir une app mobile pour les chauffeurs, une app mobile pour les utilisateurs et une app administration desktop pour le staff d'Uber qui pilote le truc, quoi.
Un intérêt, sans vouloir aller trop d'avance sur la suite de ce dont on va discuter, mais un intérêt d'une web app, c'est aussi d'avoir une page accessible aux gens qui n'ont pas l'appli mobile, en fait. Si tu veux partager une page depuis ton mobile vers quelqu'un qui n'a pas l'appli, théoriquement, pour avoir une web app, c'est la route vers ça, quoi.
Avoir des URL accessibles.
Exactement. Ce qui n'est pas encore le cas, hein. On en parlera dans les limitations. Donc, c'est pas encore faisable, mais c'est y est presque, puisque si on arrive à diriger vers la bonne page, en tout cas, avec la web app, on pourrait.
Alors, moi, j'ai mes apps mobiles, je les ai jamais publiées sur les stores, je les utilise en web app, hein. Sur mobile. Ouais.
D'accord.
Ouais, en fait, c'est juste que leur URL est cachée, mais elle existe.
Ouais.
Après, c'est sûr que par contre, si tu fais un lien depuis l'application, ça marchera pas sur le desktop, je pense. Sur le mobile.
Ouais. Ok, on va revenir un petit peu sur ces points-là. Alors, avant de continuer, justement, je voulais vous donner un petit peu des exemples de ce que vous aviez pu construire avec Adalo, même si c'est le début, hein. Il n'y a pas encore forcément beaucoup de projets, mais je pense qu'en France, vous êtes parmi les gens qui ont déjà construit et mis en production des applications avec Adalo. Donc, dites-nous un petit peu, peut-être Louis, pour commencer.
Alors moi, la première appli que j'ai faite, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais des clientes qui avaient besoin d'une app plutôt desktop, qui était en fait, c'est un job board avec des filtres et surtout des éléments que tu dois cacher en fonction des profils, parce que tu avais trois profils différents. Un truc pas hyper complexe, mais qui nécessitait quand même pas mal de fonctionnalités. J'étais parti sur Bubble, justement, en mode, bon, moi, je vais m'y remettre et ça va y aller. Et puis, j'ai passé 2-3 jours dessus, j'ai vu que j'allais exploser mon temps et du coup mon devis n'était plus du tout cohérent. Et en fait, j'ai découvert Adalo, j'étais passé dessus assez rapidement. Ils s'étaient pas encore lancés sur Product Hunt. Je suis tombé dessus un peu par hasard via Twitter. Et je me suis dit, OK, là, ça a l'air super. Du coup, je me laisse 2 heures et je vois si potentiellement, en gros, je voulais faire un POC. Et si en 2 heures, j'y arrive, je lance dessus, quoi. Effectivement, en 2 heures, j'ai répliqué les fonctionnalités principales que je voulais. Et après, il y avait pas mal de taf dessus parce que tu as toujours du refinement et tout. Mais globalement, j'ai pu lancer l'app en une semaine en mode super propre. Et depuis, c'est en prod et ça tourne et c'est vraiment bien. Après, il y a des petits défauts, mais globalement, ça tourne bien. Et j'ai même fait une appli, du coup, admin pour mes clientes, pour qu'elles puissent administrer les profils, les valider, valider les paiements, ce genre de choses, quoi. Donc, ça, c'était ma première app.
Et alors, juste, par exemple, sur cette app, globalement, est-ce que tu dirais que tu as pu faire à peu près tout ce que tu voulais faire, tout ce que les clients attendaient?
Ouais, j'ai pu faire tout, avec pas mal, quand même, avec du contournement, justement, en parlant de, et avec pas mal l'aide de Ben, de Adalo, avec qui on a été pas mal en contact. Et lui, il m'a beaucoup aidé. Par exemple, j'ai fait un petit tuto Twitter là, sur les filtres et ça, il m'avait vachement aidé parce qu'au début, pour trouver tout seul, c'était un peu galère. Mais une fois que tu as compris la logique, ça tourne bien. Et après, j'ai fait quelques apps mobiles, surtout interne Digital Village parce qu'on avait besoin d'une app pour le coworking. Donc ça, j'en ai fait une. On avait besoin d'une app pour un petit suivi commercial. J'en ai fait une aussi. Et une app pour une pharmacie... voilà, donc pas encore énormément, mais à chaque fois que je me mets dessus, je suis vraiment content d'aller sur Adalo parce que je sais qu'en assez peu de temps, je vais faire un truc super propre et c'est ça que j'aime.
Juste par curiosité, pour la pharmacie, qu'est-ce qu'elle fait l'app?
La pharmacie, c'est l'idée, c'est que tu puisses, en scannant un code barre, un code barre 2D là,
QR code.
Ouais.
C'était
un QR code. En fait, en gros, l'idée globale de l'app de pharmacie, c'est de pouvoir uploader ton ordonnance pour venir chercher tes médocs. En gros, c'est un pick-up.
Ok.
Il n'y a pas de souci de HIPAA compliance là-dessus, parce que j'ai vu Adalo n'est pas encore, du coup. T'as pas demandé là de ça, c'est pas grave.
Alors, cette app, pour être tout à fait honnête, elle n'est pas encore en prod, c'était un pop. Ouais. Et effectivement, j'avais vu qu'ils n'avaient pas encore la certification, donc pour l'instant, on freine pas mal, et en espérant que ça arrivera assez rapidement. Et sinon, il y a d'autres solutions, et sinon, il faut passer par genre un Jotform qui, lui, a l'IPA.
D'accord.
Ok. Lucien?
Ouais, écoute, moi j'ai fait un projet, c'était aussi une web app, du coup, pour le coup, parce qu'on avait une problématique précise. C'est un Kickstarter, en fait, où les gens contribuent non pas avec de l'argent, mais avec des objets, donc contribuent en nature, c'est pas mal du conseil, je trouve. Donc un concept assez intéressant qui aurait pu être fait sur mobile ou sur web app. Et en fait, ce qu'on voulait, c'était pouvoir partager directement un projet vers le monde extérieur. Donc on est parti plutôt sur une web app. Pour avoir, on pouvait pas, depuis Adalo, on pouvait pas attraper l'URL, parce qu'on peut pas avoir de JavaScript qui va t'attraper l'URL que tu peux envoyer, etc. Donc, en utilisant, comme on peut publier ça sur un nom de domaine, on pouvait du coup après utiliser derrière Cloudflare, qui peut intégrer les solutions de partage comme ShareVis, AdVis, Add2Any, etc. Et qui là arrive à attraper l'URL. Du coup, ça permettait de partager une page précise d'un projet. Donc c'est j'ai un peu le même sentiment que Louis, c'est à chaque fois je suis content de me mettre sur Adalo, c'est vraiment un plaisir. Il y a plusieurs choses, la visualisation, comment on voit tous ces écrans d'un coup, comment on est un peu comme sur j'utilise beaucoup Sketch aussi pour mes maquettes, etc. Et on a un peu le même façon de naviguer entre les écrans, de pouvoir zoomer, dézoomer. Alors Sketch est un peu plus smooth encore, mais on a vraiment ce plaisir là. Donc beaucoup, j'ai pris beaucoup de plaisir à développer cette première app, et là j'attaque une deuxième app mobile cette fois-ci. Donc là je suis content parce que je vais pouvoir voir enfin la publication dans les stores, mais de ce que j'ai lu, c'est vraiment un clic, les gens sont assez bluffés. La deuxième app, ça va être du contenu pédagogique pour des gens qui ont assisté à une formation présentielle. Et donc, ils ont accès que au contenu pédagogique de la formation qu'ils ont suivi ou des formations qu'ils ont suivies. Et après, il y a une espèce de chatroom avec les autres étudiants qui ont suivi la même formation.
C'est pas mal, ça.
Ouais, c'est vraiment exactement ce pourquoi Adalo est fait, quoi. C'est vraiment là, on va pouvoir faire ça à 100% avec Adalo, pas de truc. L'autre app, il y a eu des choses. Alors ça, c'était une app pour client aussi, hein. Donc, le client voulait pas passer par Zapier pour envoyer les emails, à chercher... très longtemps qu'on va réussir à envoyer du coup les requêtes API directement à SendGrid ou d'autres solutions, et en fait il y en a aucune qui permette, comme Adalo t'oblige à d'abord faire un GET pour pouvoir connaître la structure des objets que tu veux poster plus tard, aucune solution email ne te laisse faire un GET sur les emails, donc tu peux pas avoir la structure de l'email pour ensuite envoyer ça en post. Du coup, c'était un peu la limite, et puis on a fini par passer par Zapier. Donc, mais ça, j'espère que ce sera des choses qui lèveront bientôt. Mais même du coup, en discutant en direct avec l'équipe d'Adalo, ils n'ont pas pu le faire eux-mêmes non plus.
Attends, juste du coup, toi aujourd'hui, tu arrives à accéder à ta base de données Adalo via API?
J'arrive à accéder à ma
Là, c'était dans l'autre sens. Tu voulais faire.
C'est dans l'autre sens. Je voulais envoyer des. Voilà, des je veux, en fait, je voulais déclencher l'envoi d'email via SendGrid. Donc, je voulais faire un post.
Ouais, non, j'ai compris. Non, parce que, en fait, la question, ouais. C'est. Parce que moi, j'avais demandé pas mal de fois l'accès et puis j'avais un peu laissé tomber parce que j'étais passé sur autre chose. Ouais. Et aujourd'hui, on est capable de faire des external collections via API, par exemple sur Airtable. Et du coup, après, Adalo, il lit la base de données et il l'affiche.
Exactement.
Et aujourd'hui, est-ce que tu arrives à faire l'autre sens, c'est-à-dire faire un get de ta base Adalo pour ensuite faire un post et faire des modifications sur la base Adalo ou pas encore?
Hormis via Zapier, non,
non. Ah, c'est ça, c'est que via Zapier.
Ouais, Zapier,
c'est pas encore ouvert. Je sais pas si, je sais même pas d'ailleurs si c'est dans le roadmap, mais ça, c'est vrai que c'est un truc qui serait vachement bien, quoi.
Tu peux créer des records et tu peux maintenant, je crois qu'ils ont mis l'update de record. Ils viennent de rajouter.
Ah, j'avais pas.
Apparemment, j'ai passé ça dans le Slack, ils ont rajouté.
Enfin.
Ouais, c'était une grosse limite, ça.
Ouais. Ouais, et puis il faut qu'ils mettent Integromat aussi parce que Zapier, j'aime bien, mais.
C'est cher. Ouais.
C'est cher, ouais.
C'est vite cher.
Très vite.
Maintenant qu'on a évoqué un petit peu des projets que vous avez faits, vous avez un petit peu de recul, qu'est-ce que c'est pour vous vraiment les points forts? Certains que vous avez évoqués, mais si vous voulez juste dire un ou deux points vraiment dans lesquels Adalo se démarque, peut-être Lucien, pour commencer.
Oui, en arrivant de Bubble, Adalo est vraiment, on se sent comme à la maison, parce que les concepts sont les mêmes, et en fait il y a plein de choses, on se rend compte que Adalo, c'est une app beaucoup plus récente, en fait, puisqu'il y a plein de choses où, comme tu disais, ils n'ont pas l'historique à se traîner de Bubble. Et surtout, ils ont le recul aussi, je pense qu'ils ont bien étudié comment Bubble fonctionnait. Et donc, ce que je trouve qui est très fort dans Adalo, c'est toutes les explications ou la façon dont ils proposent les fonctionnalités aux utilisateurs. C'est toujours très bien pensé et de façon simple. En fait, quand ils abordent une nouvelle fonctionnalité, ils ne l'abordent pas, je pense, comme purement des ingénieurs en disant il faut qu'on ajoute la possibilité de faire ça. Mais ils l'approchent d'une façon... expérience utilisateur pour le builder et pour dire comment nos utilisateurs vont comprendre cette fonctionnalité, comment est-ce qu'on peut leur expliquer de façon simple, comment est-ce qu'on peut leur permettre, quitte à la limiter un peu, à leur proposer une façon simple de faire les choses. Donc, ils ont toujours cette approche-là et notamment pour le design de la base de données, je pense qu'ils ont fait un travail assez extra pour expliquer les relations entre les bases, entre les tables, le fait que les choses soient maintenues automatiquement, c'est vraiment très très bien fait. Il y a beaucoup moins de questions sur la structuration d'une base de données qu'il y en a sur Bubble dans la communauté. Donc c'est vraiment des explications quali. La façon aussi, on en a parlé un peu, dont on voit tous les écrans et dont se fait le design. Après c'est du mobile, donc c'est forcément un peu plus facile que du web où Bubble a beaucoup de choses à gérer, permettre que les choses passent les unes sous les autres, etc. Ça, il y a beaucoup moins ces questions-là à se poser, donc c'est assez facile sur Adalo. Et puis, on l'a évoqué, mais l'équipe, alors là, c'est les débuts, donc ils n'arriveront peut-être pas à rester à ce rythme-là quand il y aura plus d'utilisateurs, mais l'équipe est extrêmement présente sur le forum, sur le Slack, extrêmement réactive. Je ne sais même pas comment ils continuent à trouver le temps de développer leurs produits parce qu'on a l'impression que toute l'équipe fait du customer support. Donc, c'est vraiment un gros plus.
Ok, Louis, toi, excuse-moi.
Ouais, moi, ça va être vraiment un peu la même idée. Moi, je suis arrivé sur Adalo et effectivement, je venais de Sketch et Figma. Enfin, j'ai fait quand même pas mal de maquettes en plus de créer des apps et tout. Et j'étais comme à la maison. C'est ça, quoi. T'as l'impression de faire des maquettes de ton application, mais en même temps, elle existe et tu peux la tester en live avec de la logique, avec des éléments que tu caches ou tu caches pas en fonction des profils. Tu gères ta base de données en trois clics. Et en fait, tout est vraiment, en termes d'UX, tout c'est super bien pensé. La base de données, une fois que tu as ton petit schéma en tête, tu la répercutes immédiatement dans l'app. T'as pas de complexité comme t'aurais pu avoir sur Glide au début. J'ai un peu lutté pour les Google Sheets et tout ça. Et c'est vrai que Adalo, tout de suite, t'arrives, tu construis ta base, tu construis tes écrans, tout est facile. Tous leurs éléments préfaits sont déjà super propres. T'as pas grand chose à faire pour avoir une appli vraiment belle. Et ça, c'est vraiment l'énorme avantage. Et pareil, l'équipe, moi, je suis arrivé un tout petit peu avant leur lancement officiel et c'était parfait parce que j'ai eu beaucoup de contacts avec Ben et même un peu David. Et c'est vrai qu'ils t'expliquaient tout de suite, ils étaient super dispo. J'avais fait un call avec Ben, il expliquait vraiment bien comment ça se passait, comment ça fonctionnait. Et pour se mettre dedans, c'était parfait.
Ouais, d'ailleurs, pour rebondir pardon, sur un point que tu disais, Louis, quand je scope une app pour un client sur Bubble, je fais les maquettes avec Balsamiq. Là, j'ai scopé des apps Adalo. J'ai fait directement les écrans dans Adalo parce que c'est aussi rapide, c'est même voire même plus rapide que faire mes maquettes sur Balsamiq ou Sketch. Donc pour discuter avec le client, je dis, voilà exactement à quoi votre écran va ressembler. Je n'ai pas du tout fait la logique derrière, mais c'est aussi rapide. Donc c'est pour dire à quel point c'est rapide de faire l'interface. Quoi.
Après, sur la partie design, enfin, on va venir un peu aux limites après. Mais je trouve que c'est intéressant qu'ils ont trouvé un bon compromis, je trouve, entre c'est assez flexible, tu peux quand même un petit peu faire ton interface comme tu veux, et en même temps, tu es limité. Quoi. Et je trouve que justement, vous avez cité tous les deux deux outils, Glide et Bubble. Et moi, je trouve que Adalo est quelque part au milieu, même si c'est pas forcément une ligne droite du tout entre Glide et Bubble, mais c'est des partis pris très différents, et je trouve que Adalo arrive à prendre des partis pris très intéressants et très forts de Glide sur certains points, par exemple le design limité, on choisit en gros une couleur principale, et puis après on a quelques éléments comme ça qu'on peut personnaliser, tout en étant quand même beaucoup plus flexible, parce que Glide, clairement, je veux dire, on est enfermé dans un schéma d'application.
C'est un peu du hack, honnêtement, non, Glide. La base de données, le côté base de données, c'est du hack. Alors que Adalo, c'est de la programmation avec vraie base de données.
C'est...
Et d'ailleurs, je pense que Glide, à terme, ils sont un peu à risque. Hein. D'ailleurs, on l'a vu, là, Google, là, ils vont adapter leur base de données, leur API. Et si jamais tu ne migres pas sur la V3, rien ne fonctionnera. Donc bon, eux, ils vont le faire parce que tout base dessus. Mais c'est vrai qu'à terme, ils sont pas à l'abri que Google fasse des énormes limitations sur leur API.
Change le pricing de Google Sheet.
Ouais, et ils se retrouvent derrière le bec dans l'eau, quoi.
Ouais, je sais pas si. Enfin, ça, c'est vrai que c'est une question récurrente un peu après avec les outils no-code, hein, la dépendance aux outils. Et par exemple, dans Glide, on est dépendant à deux outils, quoi. À la fois Google Sheet, c'est à la fois Glide, et puis l'interconnexion entre les deux. Mais en même temps. Enfin, là, quand il y a eu ce truc sur les API, bon, on fait une petite digression sur Glide, mais c'est quand même intéressant. Moi, je pense que c'était pas un problème. Je pense que chez Glide, ils savaient depuis bien longtemps, de toute façon, qu'il fallait qu'ils migrent. Peut-être qu'ils l'ont même déjà fait. En fait, on le sait pas, mais peut-être que leur code est déjà ready pour la V4, ou je sais plus où ils en sont, là, dans l'API de Google Sheets. Enfin, bref, c'est intéressant. Mais moi, ce que je trouve dans Glide qui est intéressant, c'est que la base de données dans Google Sheets aussi apporte toute la puissance de Google Sheets. Vous voyez ce que je veux dire? C'est les formules de Google Sheets. On peut faire des choses incroyables quand même en réalité dans Google Sheets.
La puissance de Glide, c'est que tu arrives et que tu connais déjà la moitié de l'outil.
Ouais, bah, voir. Après, moi je dirais qu'au contraire, moi, j'ai découvert beaucoup de fonctionnalités dans Google Sheets grâce à Glide.
Grâce à la
communauté de Glide. Et des fonctionnalités, en fait, ouais, Google Sheets, c'est quand même incroyable. Et à ce niveau-là, sur Glide, on a moins de fonctions de traitement des données, enfin voilà, de
Adalo.
Ouais. Oui, bien sûr. Mais non, c'est faire.
Effectivement, et c'est une bonne transition sur les limites d'Adalo. Moi, je me retrouve souvent à devoir lier un Airtable à Adalo parce que je veux des fonctionnalités de calcul ou je veux des fonctionnalités de remontée de données en fonction d'autres données, des calculs de prior tags, enfin, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, les formules simples, tu peux les faire dans Adalo, mais dès que tu as un peu de complexité, tu es obligé de sortir. Et c'est effectivement là où la force de Glide avec un Google Sheets derrière. Mais je pense qu'Adalo, à terme, ils les amèneront, toutes ces fonctionnalités. Mmh. Mais c'est vrai qu'il faut qu'ils les reconstruisent à chaque fois.
Bien sûr. Et alors, je veux bien savoir un petit peu plus, parce que ça, j'ai jamais testé, sur la fonctionnalité d'utiliser Airtable comme base de données pour Adalo. Donc, ça veut dire, par exemple, que donc si dans ta colonne Airtable, tu as une formule, donc tu peux faire des ajouts depuis Adalo dans Airtable.
Alors, ça fonctionne.
Comment ça fonctionne un petit peu, ouais, voilà.
Alors, en gros, ta base de données externe, elle est purement lecture. C'est-à-dire que tu ne pourras pas du tout agir dessus et tu
ne
pourras pas faire de relation entre ta base de données externe et ta base de données interne. Et ça, c'est une grosse limite parce que tout ce qui est user, tout ça, tu ne peux pas faire de relation pure. Tu pourras jouer que avec les always visible ou sometimes visible. Et ça, c'est vraiment un point négatif pour moi. Et parce que certes, tu peux accéder à Airtable, du coup, tu vas pouvoir faire de la lecture sur Airtable et donc avoir une app de lecture de ton Airtable avec des calculs, avec des... Alors, par contre, les pièces jointes ne fonctionnent pas aujourd'hui. Donc, si tu ajoutes une pièce jointe, par exemple, moi, j'avais fait sur l'appli de coworking, j'avais ajouté des factures, eh ben, tu peux pas les afficher directement sur Adalo.
Ok, dommage.
Ça arrivera à terme, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et effectivement, tu peux
les afficher avec. Ah oui, non, c'est parce que c'est un fichier PDF ou un truc comme ça, tu
vois. Ouais, exactement, parce que c'est un PDF. Après, oui, tu peux mettre une URL et tu peux bidouiller comme ça en mettant une URL.
Ok,
Ça, j'avais réussi à le faire. Et ça aujourd'hui, donc il n'y a que quelques champs qui fonctionnent. Si ta table elle est trop grosse, moi j'ai remarqué que tous les champs ne remontent pas. Donc ça fonctionne, mais ce n'est pas encore le top, quoi. Donc je préférais qu'ils le construisent en natif dans Adalo parce que ça sera toujours plus propre. Donc aujourd'hui, moi je m'en sers quand même. Mais par exemple, j'ai voulu monter une app avec pour un projet là, chez DV. Mais c'était des calculs assez complexes dans Airtable et en fait il y a eu avec les champs dates, il y a eu pas mal de problèmes côté Adalo. Bon, ils les ont corrigés à terme, mais c'est vrai que tu sens que ce là-dessus c'est encore early stage, quoi. C'est
d'accord. Ils l'ont publié pour montrer que c'était possible, que ça venait. En plus, je pense que c'était quelque chose qui était très demandé dans la communauté. Je pense qu'en plus c'est une feature, je sais pas, hein, mais moi j'ai l'impression que d'un point de vue stratégique, peut-être que c'est aussi un petit truc par rapport à Glide. Parce que Glide, dans la communauté Glide, il y a énormément de gens qui demandent aussi à se connecter plutôt à Airtable qu'à Google Sheets. Mais je me demande si Adalo n'a pas poussé cette fonctionnalité assez vite, justement, pour proposer une alternative, en fait, et dire, bah, nous, on peut faire des applis mobiles en utilisant Airtable comme un back-end.
Un peu, ouais, je pense.
Ça, c'est à voir. Après, on n'est pas dans les communautés stratégiques.
Dans le sein du sein.
Voilà, c'est ça. On pourra leur poser la question à l'occasion. Ok, alors sur les limites, si on continue un petit peu, voilà, pour être juste aussi et quand même pas faire non plus qu'un tableau idyllique de l'application. Ouais. Lucien, qu'est-ce que tu...
Ouais, j'en ai pas mal quand même. une première qui est assez frustrante quand tu arrives sur du mobile d'un point de vue design, c'est que tu peux pas faire de carrousel aujourd'hui, ce qui est quand même un peu dommage dans l'expérience utilisateur. Je trouve que c'est quand même quelque chose qu'ils pourraient rajouter. Je vois pas ce qui les en empêche. Techniquement, de rajouter ça, c'est un peu le truc frustrant quand tu veux faire ton UX.
Globalement, je trouve qu'il n'y a pas énormément de composants visuels dans.
Ouais, exactement.
Dans ce cas-là, la custom list, tu peux pas faire grand-chose.
Ouais. Et voilà, j'attends quand même avec impatience un peu le carrousel pour pouvoir proposer des trucs un peu sympas. Après, sinon, ce qui est assez frustrant, c'est aujourd'hui, t'as pas de state, donc t'as pas de choses purement côté client. T'es obligé de tout faire passer par ta base de données si tu veux. Cacher, afficher un bouton, changer l'état d'un bouton. La seule façon, c'est de passer par la base de données, à l'exception de la valeur qu'il y a dans les inputs ou les choses comme ça que tu peux changer. Mais sinon, t'es obligé de passer par la base de données, donc c'est moins performant. Hein. Ça limite pas mal la logique de ce que tu peux faire sur les écrans. De la même façon, t'as pas de logique de workflow. Tu peux pas dire, tiens, si l'utilisateur il a tel truc dans sa database, je fais ça. S'il a autre chose, je fais ça. En fait, tu te retrouves du coup à multiplier les écrans et ça te fait des il faut que tu penses à des choses où t'as pas du tout à penser quand t'es sur du bubble, par exemple. C'est que là, t'as à multiplier les écrans pour pouvoir faire tous les chemins conditionnels logiques que tu veux, tu vois, parce que tu ne peux pas mettre de logique dans tes workflows.
Parce que globalement, les actions, elles peuvent se déclencher, donc les workflows, enfin, que sur des clics de boutons, des choses comme ça, si je dis pas de bêtises. Il y a toujours, on peut pas dire. Quand l'utilisateur...
Le chargement de la page, tu as une action.
Ouais. Ça, c'est un événement, d'accord. Ouais. Ouais. Et puis ouais. Après, sur les clics, d'accord. Mais il n'y a pas de...
Non, tu peux pas faire du when, la condition est vérifiée, fait ouais. Si. Mais même dans un workflow, quand quelqu'un appuie sur un bouton, si tu voulais faire deux actions différentes suivant des paramètres propres à cet utilisateur, tu peux pas.
D'accord, ouais, ok.
C'est quand même un peu limitant. D'un point de vue après fonctionnalité high level, il n'y a pas de in-app purchase aujourd'hui, ce qui enlève beaucoup de business model possible à cause des règles des stores où on n'a pas le droit de vendre de content digital ou d'unlocker des features, etc., autrement que par in-app purchase. Donc ça, ouais. Je pense que ça limite pas mal les possibilités de création de use case d'app que tu peux construire avec Adalo aujourd'hui.
C'est quand même étrange parce que pourtant il y a une intégration Stripe, hein, si je dis pas de bêtises, même exactement, l'intégration ouais. Marketplace, il me semble. Enfin, lui, tu
vois. Ils ont très loin dans les intégrations. Il y a le paiement ACH là, pour les transferts, mais ils n'ont pas mis in-app purchase, ce qui tue, je sais pas, peut-être 30% des business models possibles des apps. Quoi.
Je dirais plus que 30%.
Plus, ouais. Ouais, parce que Google, tu n'as pas le droit de faire de vente directement sur les stores d'Apple avec du Stripe, quoi. Si jamais il faut passer par le
Stripe. Pour les produits physiques.
Pour les physiques, ouais.
Pour les physiques, ouais. Oui, c'est ça.
Ce n'est pas, à mon avis, le cas majoritaire, parce que souvent, les gens, ils ont plutôt envie de faire du freemium, tu payes pour débloquer du contenu, et tout ça doit passer indispensablement par l'in-app purchase.
Voilà, ce qu'on peut pas faire encore, c'est donc récupérer l'URL, hein, ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc on peut pas dire tiens, je veux partager telle page de mon application si j'ai fait une web app par exemple, quoi. On peut pas réussir à faire un truc comme ça. Même si on a construit la web app, on peut pas manuellement reconstruire son URL, en fait, où on ne pourrait pas la connaître et la stocker en base. Donc ça, c'est un peu... Ça paraît un truc avancé, mais en fait, c'est assez simple et c'est un besoin qu'ont souvent les gens de vouloir partager une page précise, un profil précis, quelque chose comme ça.
Effectivement, c'est assez limité, mais moi, j'ai vu que les pages avaient des ID spécifiques. Tu peux quand même aller sur une page avec l'ID spécifique.
Exactement, mais comment tu le fais de façon programmatique, dans le sens, je connais cette URL, cette ID, comment j'y ai pas accès, en fait, programmatiquement. Ouais. Et du coup, je peux pas le
reconstruire.
Ouais. Et une chose après qui est plus un bug aujourd'hui, mais qui est une vraie limitation, c'est quand tu copies-colles des écrans, tu fais « Ah, c'est génial, je peux copier-coller les écrans ». Ça, ça marche très bien dans Bubble. On peut même copier toute la logique, etc. Et alors, on se retrouve dans Adalo. Alors, non seulement ça marche pas, c'est-à-dire qu'on copie, les écrans sont copiés visuellement, mais tout ce qui est Magic Text, etc. ne marche pas. Et en fait, on s'en aperçoit pas, et c'est la source de beaucoup de bugs, parce qu'en fait, visuellement, ils sont là, mais en fait, ils sont cassés, il faut les refaire. Donc, tu vas voir le truc qui est en place, tu fais, bon, c'est bon, ça a tout bien collé. Et en fait, non, il faut refaire les magic text, les trucs.
Une casse, c'était horrible.
Et du coup, en fait, c'est pas tant le problème que ça marche pas, c'est que ça marche pas, mais tu crois que ça marche. Et du coup, c'est assez frustrant. Enfin, c'est ce qui m'a causé le plus de frustration dans l'app que j'ai construite pour l'instant. C'est à chaque fois de retrouver où étaient les bugs dus à ça, en fait.
Ouais, et il y a aussi en termes de placement des éléments. Moi, j'ai fait beaucoup de sur les mêmes écrans, j'ai fait des affichages conditionnels en fonction, parce que j'avais des statuts en base de données, enfin des sortes de statuts, genre is athlete ou is machin. Ouais. Et du coup, je faisais des affichages conditionnels. Mmh. Et le problème, c'est que du coup, je me retrouvais pas mal à faire des surimpressions. Et alors là, tout est pété en termes visuels. Ça fonctionne.
Ah oui, si tu mets un élément sur un autre, tu veux dire. Ouais, il faut les mettre l'un sous l'autre.
En fait, il faut les mettre l'un sous l'autre, mais dans un certain sens. Et puis, il faut que ça se colle, mais que ça se colle pas, parce que sinon, ça va à droite et à gauche. Le placement de ton dent est un petit peu aléatoire, quoi. Mmh. Tu commences à faire des choses un peu complexes. Il faut y aller vraiment petit bout par petit bout.
Et autre chose qui est pas très naturelle, j'ai trouvé, par exemple, tu as une page. J'avais des projets avec le projet qui est quelqu'un qui est créateur, quelqu'un qui est contributeur. Si je veux, donc pas de problème sur ma page projet pour afficher ces deux personnes. Et si je veux faire un clic sur l'une des deux personnes pour afficher son profil, en fait, je suis obligé d'avoir créé deux pages profil parce que je peux pas choisir. En fait, je peux pas réussir à dire à Adalo quel est l'utilisateur que je veux afficher dans la page. On peut pas envoyer de paramètres, en fait, dans les URL ou dans la page. Donc, en fait, comme les deux utilisateurs sont rattachés au projet, quand on clique sur un utilisateur, Adalo ne sait pas lequel c'est. Donc, en fait, la seule data qui passe à la page suivante, c'est le projet lui-même, mais pas l'utilisateur sur lequel j'ai cliqué. Du coup, je suis obligé d'avoir deux pages, et une page où j'affiche le contributeur, une page où j'affiche le créateur du projet, et quand je clique sur tel bouton, j'envoie sur la page créateur, quand j'envoie sur la page l'autre bouton, j'envoie sur la page contributeur. Donc, je me suis retrouvé à faire deux fois la même page profil pour y accéder de deux boutons différents pour afficher deux données différentes.
Ouais. Et tout ça, pourrait être résolu, ça pourrait être résolu justement avec les fameux states, enfin les états, quoi.
Disons de pouvoir passer des paramètres, c'est pas vraiment les états, là.
Non, c'est plutôt les paramètres dans l'URL. Mais ça,
je sais pas si ce serait dans l'URL, mais ou en tout cas de dire à Adalo, j'ai cliqué sur tel utilisateur, c'est telle data que je vais envoyer à l'autre écran. Donc on se retrouve à faire des trucs, voilà, on se retrouve en fait, parfois on a l'impression de faire du PowerPoint, où tu dupliques les trucs, tu fais des copies pour changer, comme si tu faisais ton app sur PowerPoint et que tu faisais deux écrans exactement identiques avec juste un bouton qui a changé et que d'un point de vue utilisateur, il a l'impression de rester sur le même écran. Mais en fait, tu te retrouves à faire les mêmes choses sur Adalo. Tu construis ton app de la même façon. Par exemple, tu veux faire une tabulation sur ton écran. Mais en fait, tu caches pas des blocs sur ta même page. En fait, tu fais plusieurs pages et l'utilisateur, lui, ne verra pas qu'il est en train de changer de page. Il aura l'impression d'être juste en train de changer de table. Donc, c'est du PowerPoint de son usage.
Bah ça, je pense que c'est des trucs qui vont améliorer, j'espère, parce que c'est pas le truc le plus.
Après, c'est pas forcément mauvais parce que c'est très accessible pour les gens, du coup, d'un point de vue compréhension.
Mmh. Ah, c'est intéressant, c'est toujours une recherche pour tous les outils no-code entre vraiment faire des fonctionnalités accessibles, faire des parties pris qui des fois vont moins plaire aux puristes, j'ai envie de dire, mais qui vont être plus compréhensibles par le grand public. Quoi.
Si Glide c'est basé sur la sheet, tu vois, t'as plus Adalo qui est du PowerPoint en fait.
Ouais, c'est chacun leur paradigme.
Ouais.
Ok, on va continuer, puis on va commencer à arriver sur la fin. On a déjà bien creusé, c'est hyper intéressant. Un peu en vrac comme ça, qu'est-ce que vous voyez comme, qu'est-ce que vous aimeriez comme fonctionnalité? Enfin, on a évoqué certaines choses, certaines limites. Vous, en termes de fonctionnalité vraiment pure, qui pour l'instant n'existe pas, qu'est-ce qui vous paraîtrait un peu prioritaire? Peut-être Louis.
Ah, moi, ouais, c'est vraiment les états. De pouvoir faire la même page différente en fonction de l'état d'utilisateur, l'état du projet, l'état de ça manque vraiment pour pas mal d'éléments. Je veux dire, ça c'est la première. Après il y en a plein d'autres, il y en a plein dans le pipe, mais on voit que l'équipe est pas mal débordée et qu'ils bossent beaucoup. Mais c'est vrai que c'est comme j'ai envie de faire plein d'apps dessus, j'ai envie qu'il y ait plein de fonctionnalités. Du coup c'est un peu frustrant. Mais ouais, je dirais si je devais en donner qu'une là pour l'instant, moi ce serait vraiment les états. Et je sais que c'est prévu chez eux, donc ça va arriver. Donc je voilà. Mais effectivement, le carrousel aussi, ça permettrait de faire un peu varier les plaisirs sur la présentation de l'app.
Mais c'est moins, ouais, ça, le carrousel c'est moins prioritaire parce qu'en fait c'est juste une façon d'interagir pour l'utilisateur ou d'afficher les infos. Donc ça, on peut se débrouiller autrement. C'est pas une limitation aujourd'hui. Quoi.
Ouais. Et une dernière quand même. Justement, je parlais tout à l'heure des collections externes et des collections internes, de pouvoir vraiment faire le lien entre les deux. Ça, moi, ça me manque. Quand j'ai mon Airtable qui est aspiré par Adalo, enfin qui est affiché par Adalo, j'aimerais bien juste pouvoir faire un lien avec mes users. Parce que du coup, le mec, il se log et je ne peux pas faire un lien avec mon Airtable, c'est un gros manque.
Je ne connais pas trop Airtable, moi, mais avec du coup, Bubble, parce qu'on essayait hier soir, on en discutait sur le Slack. Du coup, ça marche hein, de pouvoir se connecter à la base de données Bubble en lecture et aussi en création, donc créer des objets dans la base de données Bubble depuis l'app Adalo.
Mais via l'API, quoi. Parce que là,
moi je peux créer.
Via l'API, ouais.
Ce dont parlait Louis, c'est en via l'intégration interne, j'ai envie de dire, de Adalo vers Airtable.
D'accord.
Ouais, je peux créer des nouvelles lignes dans Airtable sans problème. Et du coup, toutes mes formules Airtable vont fonctionner et ça va remonter les infos, c'est pas un souci. Mais aujourd'hui, par exemple, sur l'app, j'ai toute la notion user qui est intégrée à Adalo. Ouais. Et en fait, pour ensuite que tu dises, bah, tel user, il est tel. Il est lié à tel enregistrement. Bah, il faut faire une relation entre les deux tables. Et cette relation, tu ne peux pas la faire avec une table externe.
D'accord, tu ne peux pas la faire avec une table externe. Oui, d'accord, dans le système interne d'Adalo.
Ça correspondre à des utilisateurs Adalo, à des lignes.
Ouais, d'accord. Tu es obligé de faire un filtre sur un système d'ID que tu t'es fait ou un truc comme ça. Quoi.
Exactement.
Et c'est du coup, on ne sait pas trop comment ça scale encore tout ça, mais je ne sais pas si c'est très performant si c'était sur des grosses bases de données. Ouais. Moi j'ai vraiment hâte qu'ils mettent l'in-app purchase parce que je pense que ça va unlocker beaucoup d'idées créatives. Je pense qu'on va avoir beaucoup de nouveaux concepts d'app arriver sur Adalo alors qu'aujourd'hui on est quand même un peu limité à de la marketplace d'objets physiques ou du contenu. Non pas que toute app doit avoir un business model absolument, mais ça va quand même libérer les forces créatrices.
Et d'ailleurs, on l'a pas précisé, mais ils ont une roadmap qui est publique où on peut faire des propositions de features. Et pour l'anecdote, par exemple, c'est nous qui leur avons demandé d'ajouter l'in-app purchase.
Voilà. Donc, si vous entendez ça, il faut que vous alliez voter pour cette feature.
Voilà.
Elle a que 24 votes pour l'instant.
Elle est pas en tête alors.
Ouais. Non, mais de toute façon, elle n'est pas prévue. Elle n'est pas dans les plans.
Ouais. Bon, on espère que ça va arriver.
Et ça, pour le coup, ils auraient un intérêt vraiment stratégique à le faire parce que je pense que ce serait le seul app builder à le faire.
Ah bah, là, d'après nos recherches, clairement, pour l'instant, personne ne le fait. Quoi.
Donc, ils auraient un énorme créneau. Mais bon, ça, on n'est pas à leur place. Mais ouais.
Alors, pour finir, j'ai deux petites questions. Est-ce que vous avez des projets déjà à venir, des prestats pour venir sur, que vous allez faire sur Adalo?
Mais du coup, moi, la semaine prochaine, je finis le cadrage et la semaine prochaine, je développe cette application de contenu pédagogique personnalisé avec Chatroom.
Oui, dont tu parlais au début.
Voilà, ouais.
Et toi, Louis?
Alors, moi, j'ai rien de dans le pipe actuellement, à part des apps, des petits side projects, surtout pour la vie Digital Village, parce qu'on a quand même pas mal de besoins. On a déjà notre SI interne qui est super puissant, mais tout ce qui est gestion de coworking, tout ce genre de choses, il y a toujours des petites choses à faire. Donc, on va faire, en fait, Digital Village, donc c'est le comité de freelance, mais c'est aussi un lieu de vie et qui, par exemple, à Paris, ça va être assez gros avec des logements, du de la restauration, tout ça. Et du coup, là, je vais développer l'application qui va gérer un peu ce lieu.
Et alors, dernière question que traditionnelle dans le podcast, on pose un peu à tous les invités. Si vous aviez un side project, alors vous avez des side projects, hein, tu t'en parlais, mais bon, on va dire quelque chose d'un peu conséquent que vous devriez lancer un petit peu voilà, sur le côté pour faire, je sais pas, une muse ou quelque chose comme ça, et que vous auriez à faire avec Adalo. Est-ce que vous avez une idée, qu'est-ce que ça serait?
Alors, ah oui, une muse, d'accord, qui serait... alors, je pense que j'avais dans les cartons, on parle toujours de nos propres besoins, hein, mais une petite app pour scoper rapidement des projets, parce que tu rencontres souvent des gens qui te disent « Ah, voilà, j'ai telle idée de projet, pour combien tu me la développerais ?» Et ils ont quand même besoin, tu leur dis « Ah, mais là, il faut que je me pose pour te faire un chiffrage, etc. » Non, mais globalement et tout, combien? Et je pense, j'aimerais bien faire un petit outil de chiffrage d'app, ou justement d'app à faire sur Adalo, par exemple, okay. Pour que ce soit très méta.
Comme ça, tu aurais dans la poche, quelqu'un te demande...
Voilà, quelqu'un demande, ok, t'as combien de rôles utilisateurs, ok, donc qu'est-ce qu'il doit pouvoir faire, ok, combien ça fait, telle page, ok, voilà, et sortir un chiffrage, t'as combien d'intégrations, third party, etc. Et voilà, faire un petit app comme ça, mais et quitte à faire une, mais il faudrait une app purchase, et après faire une petite souscription pour que les freelances utilisent cette app.
Ouais. Bah oui.
Ah, et toi, Louis, une idée?
Voilà, en side project, j'ai pas forcément trop d'idées, mais c'est plus dans l'air du temps. C'est que comme là, ça va bientôt les élections municipales, j'aurais bien fait une petite app, tu vois, pour que pouvoir la mettre dans la poche de tout. Genre, moi, je suis à Marseille, donc de tous les Marseillais qui remontent leurs idées, qui remontent un peu des inputs aux hommes politiques, parce que c'est vrai que tu vois souvent les hommes politiques faire des événements à parler beaucoup d'eux, mais tu vois là ça serait un peu l'inverse, c'est un peu à la Adalo qui fait sa roadmap publique, voilà, qu'il y ait des questions publiques et que du coup les hommes politiques répondent en direct. Ça me ferait bien marrer de le faire sur Adalo, parce que c'est pas une app hyper complexe et que ça pourrait être fait rapidement, et t'as un effet waouh assez rapide, quoi.
Ok, super. Bon bah super, merci beaucoup pour tout ça. Franchement, j'ai l'impression qu'on a pas mal creusé le sujet Adalo. J'espère que ça va susciter un peu des vocations. Et puis voilà, on va continuer de toute façon toutes ces discussions sur le Slack de contournement, et puis avec des projets. J'espère qu'on va rencontrer d'autres gens qui utilisent Adalo en France, qui vont pouvoir nous montrer
ce qu'ils font. Un petit meet-up.
Ouais, bah, je pense que c'est le next step. Hein. On va voir comment organiser ça à Paris ou à Marseille, ou entre les deux. Voilà. Et Pierre, du coup, où est-ce que, si les gens veulent vous contacter, en savoir, enfin, suivre un peu ce que vous faites, où est-ce que vous êtes actif?
Alors moi, je suis assez facile à trouver sur le forum de Bubble. Je suis dans le Slack de contournement, dans le Slack d'Adalo, donc vous me trouvez un peu partout. J'ai un compte Twitter, mais je suis pas hyper actif, mais si vous me pinguez là-bas, je répondrai aussi. C'est mon Twitter, c'est tout simplement Lucien Tavano, LucienTavano. Et sinon, ouais, je pense que dans le milieu du no-code, on n'est pas dur à trouver.
Ouais, je pense effectivement, on fait vite le tour. Et bien, c'est sympa aussi, du coup, d'avoir une petite communauté. Et moi, je suis plutôt actif sur Twitter, donc @LouisDV. Sinon Slack de contournement, Slack d'Adalo, je les ai ouverts en parallèle de mon Slack Digital Village, donc je suis toujours dispo là-dessus aussi.
Cool. Et puis sur Twitter, tu postes des petits tips sur Adalo, donc c'est...
Ouais, et ça, j'essaie d'en mettre un peu régulièrement, ouais.
C'est sympa, oui. Et je me demandais si un jour tu nous feras un retour si tu te remets à Bubble après avoir fait du Adalo, est-ce que du coup tu vas avoir des choses, tu vois, qui vont t'apparaître complètement évidentes maintenant et tout. Je pense que dans l'autre sens, c'est intéressant aussi comme chemin.
Ouais. Je pense que j'y retournerai sur Bubble, parce qu'ils vont, forcément, avec tout le mouvement no code en 2020 là, et en 2019, je pense qu'ils vont forcément évoluer. Et il y a un moment donné où je vais vouloir faire un truc plus complexe, et je vais être obligé d'aller sur Bubble, et du coup, je te dirai si je souffre ou pas.
On fera un épisode follow-up, vraiment battle Bubble versus Adalo.
Sachant qu'ils marchent très bien en combinaison, du coup, parce que des choses que tu ne peux pas faire dans Adalo, tu déclenches un endpoint Bubble, et après tu vas faire toute la complexité que tu veux derrière, avant de rebalancer ça dans Adalo, quoi.
Ouais, effectivement. Ouais, c'est ouais, j'ai un peu sauté la question un peu sur l'écosystème et tout, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais effectivement, je pense que ça, j'aimerais bien faire un retour, j'aimerais bien tester, et là, cette discussion qu'on a eue, là, ça fait 2 semaines un petit peu qu'on fait des recherches, utiliser Bubble en back-end, Adalo plutôt en client, j'ai l'impression qu'il y a un truc vraiment chouette à faire là-dessus, quoi.
Ouais, il manque encore la petite fonctionnalité dont on n'a pas parlé, de third-party authentication dans Adalo, mais ça, apparemment, c'est dans leur roadmap bientôt, parce qu'ils savent que ça va débloquer beaucoup de choses.
Ouais. Et Louis, tu voulais dire un dernier truc, désolé.
Non, mais c'était ça exactement ce que tu voulais dire, c'est que je pense que moi, ce qui m'a bloqué sur Bubble, c'est pas la logique que je trouve assez puissante, c'est vraiment le côté front qui me dérangeait. Et mais du coup, c'est vrai que tu peux tout à fait imaginer un bubble en back-end. Mais alors, en back-end, j'ai aussi découvert, bon, on pourra en reparler à d'autres occasions, mais un truc qui s'appelle Buzzy Work qui a l'air assez puissant aussi. Et donc ça je vais creuser de ce côté-là pour faire un petit back-end un peu puissant aussi.
Ouais, donc, n'hésite pas à nous partager tes retours là-dessus sur le Slack.
Ouais, pas de souci.
Super. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux. Passez une bonne journée.
Merci, Lucien.
À très bientôt pour les nouvelles aventures no-codesques.
Merci, Alex. Ouais, merci. À bientôt, Louis. Salut.
Salut.